Michel Potvin est en studio aujourd'hui. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. C'est pas facile pour tout le monde de se loger. On parle beaucoup de logement social. Qu'en est-il exactement, Michel?
Bon, le logement social, c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. C'est quoi le but du logement social? Bien, c'est d'offrir des logements abordables, puis on veut aider les locataires qui sont dans le besoin pour les assurer contre des augmentations ou les protéger contre des augmentations trop déraisonnables de loyer. Où on en a du logement social, mais ça peut être partout, ça peut être même en région, mais souvent quand on parle des villes, Montréal, les quartiers centraux qui ont tendance à se gentrifier et puis...
À s'embourgeoiser.
Donc, c'est vraiment là où les besoins sont les plus importants. Puis ce qui arrive souvent dans ces quartiers en voie d'embourgeoisement, c'est qu'on a ce qu'on appelle des rénovictions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit l'immeuble est vendu ou le propriétaire décide de faire des grosses rénovations pour être capable d'augmenter le prix des loyers. Puis les locataires qui sont là sont un peu pris par ces augmentations-là.
Ils deviennent des victimes.
Ouais.
Comment on peut aider les locataires dans ces quartiers, justement?
Bien, pour les aider, il faut comprendre la base du problème. On vient de le décrire, mais la base du problème, en fait, c'est le terrain qui s'apprécie. Alors, pourquoi les loyers augmentent? Bien, en partie parce que...
C'est la valeur du terrain?
La valeur du terrain. Donc, un quartier qui s'embourgeoise... Je ne sais pas si c'est le bon...
Oui, c'est le bon mot.
Bourgeoise. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une demande accrue pour ce quartier-là. Ça fait augmenter la valeur des terrains.
Mm-hmm.
Et puis, si les terrains augmentent, bien, les propriétaires disent, bien là, mon terrain vaut cher, c'est parce qu'il y a une demande, je peux charger plus cher, donc je vais augmenter mes loyers. Alors, donc, c'est vraiment la valeur du terrain. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de séparer la valeur du terrain des coûts d'entretien d'un immeuble. Donc, le loyer ne reflète pas seulement la valeur du terrain, mais également les coûts d'entretien de l'immeuble. Parfois, c'est un logement chauffé, le chauffage, le coût des taxes, etc. Donc, il faut essayer de séparer les deux. Comment on peut faire ça? Bien, il y a différents modèles qu'on retrouve. Souvent, ça peut être la municipalité ou le gouvernement qui possède des logements.
Mm-hmm.
Et puis, qui ne veulent pas nécessairement faire de l'argent avec le terrain, mais ils vont juste charger ce que ça coûte d'opérer l'immeuble aux locataires. Ça peut être fait aussi par le biais d'une organisation à but non lucratif, une OBNL, qui pourrait devenir propriétaire de l'immeuble. Puis comme elle n'a pas un objectif de profit, elle va un peu oublier la valeur du terrain. Il est là, mais on ne changera pas ses augmentations. On va juste s'assurer de rentrer dans nos coûts variables d'opération. Ou bien ça peut être le modèle coopératif. Mm-hmm. Il existe certaines coopératives à Montréal où ce sont les locataires qui sont propriétaires de l'immeuble, qui sont par le biais d'une coopérative. Donc, c'est vraiment encore une fois, de séparer l'augmentation de la valeur du terrain des coûts d'opération.
Et d'avoir une conscience sociale jusqu'à un certain point.
Ben, exactement.
Alors, est-ce que ça semble, oui, une bonne idée, mais est-ce qu'il y a des exemples?
Bien, un peu pour ça que j'en parlais, Radio-Canada Info faisait état d'une expérience récente dans Hochelaga-Maisonneuve. On a deux entrepreneurs, Émilie Thérien et son partenaire d'affaires, Marc-André Robertson, qui ont fondé une OBNL, organisation à but non lucratif, qui s'appelle Hochelab, donc dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis, ils ont fait un premier achat, ils ont acquis un immeuble de 15 logements sur la rue Moreau.
Même l'adresse précise, 2655.
Ben, c'était dans l'article, donc je me dis que ce n'est pas un secret, là, 2655 Moreau. Puis le propriétaire voulait vendre, puis il était entouré de projets où on achetait puis on transformait en condo ou bien on rasait puis on construisait de nouvelles unités de logement à loyer beaucoup plus élevé.
Ouais.
Et puis on réussit à convaincre le propriétaire de faire un bon geste et puis de vendre à un prix raisonnable pour les deux, évidemment. Il n'a pas donné son immeuble, mais il a vendu. Puis comment ils sont financés? Parce qu'il faut quand même l'acheter, cet immeuble-là.
Ça prend de l'argent.
Donc, ils ont eu des subventions. On nous rapporte pour à peu près 50 % du coût de l'immeuble qui était 3 millions. Enfin, quand même, le coût d'acquisition, c'est un peu plus de 3 millions. 50 % en subvention du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Puis le reste, j'imagine, ça doit être une mise de fonds, puis du financement hypothécaire. Puis c'est possible que le financement hypothécaire soit fourni, c'était pas détaillé dans l'article, mais par soit la Ville, le gouvernement, mais ce financement-là, la subvention ou les prêts, c'est conditionnel au fait que les loyers sont maintenus à un niveau abordable. Donc, on peut pas dire on achète comme ça, puis après ça, on charge les gros loyers, là. Donc, évidemment, il y a une... Ça s'inscrit dans un objectif de la Ville de Montréal. Dans son rapport Chantier Montréal abordable, qui a été publié en 2024, la Ville de Montréal voulait avoir, en 2050, à peu près 225 000 unités de locatives qui seraient abordables pour les gens qui se qualifieraient pour ces loyers. Alors, la Ville, pour atteindre cet objectif-là, elle avait deux stratégies d'intervention, soit construire des nouveaux logements ou faire l'acquisition d'immeubles existants.
Des nouveaux logements sociaux et abordables.
Oui. Ouais. Donc, la Ville aurait, par exemple, un terrain, on construit des nouvelles unités, mais on maintient les loyers à un niveau abordable.
Ouais.
Plutôt que, en guillemets, le prix du marché. Parce que la difficulté, c'est que c'est pas le prix du marché. Si le prix du marché était abordable, on n'aurait pas de problème. Donc,
mais c'est pas le cas.
C'est ça. Ou bien favoriser l'acquisition par... donc, soit construire ou favoriser l'acquisition, notamment par des OBNL, comme dans le modèle qu'on a. Et évidemment, c'est beaucoup moins cher à acquérir des logements et des édifices existants que d'en construire des nouveaux. Donc, Hochelab, là, notre fameuse OBNL, est vraiment positionné dans cette optique-là.
Ça doit être assez populaire. Hein?
C'est populaire. Son téléphone ne dérougit pas. Il y a même des propriétaires d'immeubles qui appellent l'OBNL pour leur vendre leurs immeubles.
Ah oui.
Donc, est-ce que les... évidemment, on a seulement deux entrepreneurs. Il faut quand même les gérer, ces immeubles-là. Là. Ça se fait pas tout seul. Alors, on va voir à quel rythme de croissance on est supposé aller, mais on va espérer que ça va inspirer d'autres...
Ben oui, on l'espère certainement.
OBNL.
C'est un très bel exemple d'implication sociale, là.
Oui, ça fait une différence, mais comme bon économiste, on a toujours un « ça dépend » ou un petit bémol. Donc, je pense que c'est un excellent projet. Puis on souhaite bonne chance, évidemment, aux entrepreneurs et tout. Puis on va espérer, encore une fois, que ça en inspire d'autres. Mais en même temps, il faut réfléchir. C'est pas facile de vraiment cibler ceux qui en ont besoin. Prenez l'édifice de la rue Moreau, puis là, je connais pas les locataires. Mm-hmm. Donc, par exemple, supposons que les locataires, ce sont des gens qui sont plus dans le besoin ou pour qui c'est plus difficile.
Les favorisés.
Exactement. On tient les loyers pas chers, mais supposons, puis là, je prends un exemple un peu farfelu, mais un des locataires gagne à l'auto, puis il décide de rester là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met à la porte? Tu sais, c'est toujours l'idée de voir, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le besoin à un moment donné, mais à une autre étape dans leur vie, ils ne sont plus dans le besoin. Puis là, est-ce qu'on, j'appellerais ça des socio-victions, ou est-ce qu'on veut les expulser de leur logement parce que tout d'un coup, le revenu a augmenté? Donc, vous voyez la difficulté d'aider, là, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est un problème...
Mais gagnant le loto, là, les chances sont minces.
Non, mais ça
peut être
toutes sortes... Ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être quelqu'un qui est en début de carrière, un entrepreneur, ou tout ça, en début de carrière, c'est pas facile, il se part une visite, là, ça commence à aller bien, puis là, il dit, ah, ben là, moi, j'ai un loyer pas cher, je vais rester ici, alors qu'il y aurait moyen d'aller ailleurs. Donc, c'est pas... Puis on a toutes des histoires à New York. On entendait des logements dans Manhattan pour une bouchée de pain, puis les gens s'accrochaient là-dessus parce que les loyers étaient contrôlés, puis c'était pas nécessairement les bonnes personnes. Donc, c'est
soyons
là la difficulté.
Soyons solidaires, qu'on soit propriétaire ou locataire.
Oui, c'est ça. Donc, il y a un défi, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, non, mais il faut en être conscient.
C'est un article que vous avez trouvé où, Michel?
Sur le site web Radio-Canada Info.
Parfait. Bien, donc, merci beaucoup.
Qui a été publié ce matin.
Vous passerez n'importe quand. Bonne journée.
Avec plaisir.